Bonjour à tous et à toutes. Retour sur la foire Biocibel 2018 organisée par l'association Nature et Progrès Tarn au parc de la Bousquetarié à Grouillet. Nous vous proposons une petite balade autour des stands à la rencontre de collectifs et associations alternatives. Allez, c'est parti. Toujours sur Biocibel, et donc je suis devant le panneau programme espace animation, et donc il y a un atelier pétrissage percussif. Tout à l'heure on a entendu un petit peu de percussion, et là donc c'est l'atelier pétrissage percussif.
Tout le monde peut commencer à faire le pas avec les pieds. Avec les pieds. Et maintenant vous allez écraser. Replier, super, on a bien compris le message. On écrase, on replie. On va le faire un peu plus serré.
C'est normal s'il y a des failles.
Oui, c'est normal. Attention, un peu plus rapide avec les pieds. Attention, on écrase. Aplatir son bâton avec les mains grandes ouvertes comme ça. Tout le monde va bien mettre ses mains comme ça. Et on va l'aplatir comme ça. Ok. Et donc ça, musicalement, ça va faire comme ça. Ok. On écrase. On replie. On écrase. On replie. On écrase. On replie. On écrase. On replie. Attention. On écrase. Farine là. Ouais, c'est bien. Alors maintenant, on va le frapper. Vous allez faire deux coups avec votre main à côté du bâton. D'accord? À côté du bâton. Et une avec les deux mains sur le bâton, d'accord? Ça fait comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Hop, hop, hop. Super. Hop, hop, hop. Ok. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. 1, 2, 3, très bien. Et donc ça, hop, attention. On va varier maintenant entre les rythmes. On va écraser, replier et faire le 1, 2, 3, d'accord? Est-ce que c'est OK pour tout le monde?
Oui.
Oula, tout n'est pas vraiment OK. Est-ce que c'est OK pour tout le monde?
Oui.
OK, attention, petit roulement avec les mains. Yeah.
Merci à Mathieu de l'association Mesclavi pour son atelier pétrissage percussif. Troisième épisode donc de notre balade sur la foire Biocibel édition 2018 organisée à Groyer au parc de la Bousquet-Tarier par l'association Nature et Progrès Tarn. Une foire des petits producteurs, des artisans et une rencontre d'alternatives diverses et variées. Un espace d'échange d'expériences aussi, notamment autour des toilettes sèches et du compost. On passe devant le chapiteau conférence où nous captons des échos de la conversation des maîtres composteurs autour du réseau Compost Citoyen avec Humus et associés, paysans des couleurs et les mains sur terre.
Le temps de la prise de parole. Oui, toilettes sèches. Tous les apports de matière carbonée sont bons. Le principe, c'est qu'on va aller chercher des matériaux qui vont aspirer les liquides. Donc, feuilles de platane, ça va être un petit peu difficile si on met que de la feuille de platane. Mais toutes les brindilles, tout ce que vous avez chez vous, monsieur, là, par exemple, ou de broyer les petites branchettes qu'on a, tous ces apports-là, ils sont bons.
Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les toilettes sèches ou le fait qu'il y a des concentrations de matière, etc., il y a, depuis quelque temps, il y a certains... ingénieurs agronomes qui travaillent sur des grandes surfaces et qui font par exemple, du travail de semi-direct en grande culture, et certains disent eh bien, le compostage ça pollue, et moi je trouve c'est intéressant de gratter un petit peu ça, parce qu'en fait ça veut dire qu'à un moment donné quand on composte on concentre des matières, certes on favorise la vie et l'idée c'est de réduire le volume, mais de transformer, de trouver des solutions peut-être pour réemployer ces matières dans notre jardin. Mais ça vaudrait le coup à un endroit comme si jamais on composte pour ses toilettes sèches ou autres, de pouvoir en fait à des moments déplacer son composteur, le changer d'endroit quand on peut, parce que à l'endroit en fait où on a composté et en grande culture, par midi, si jamais on composte une tonne de matière, au bout de je sais pas moi d'un an, un an et demi, on a 200 à 300 kilos de matière. Et ces personnes qui travaillent sur le côté agronomie qui disent mais c'est passé où tout le reste ? Et donc il y a une partie qui a dû s'évaporer, des choses qui ont été dégradées, qui sont parties dans l'air ou encore peut-être sous forme autre que vapeur d'eau, et puis aussi des choses qui se sont infiltrées dans le sol. Et donc ça vaudrait le coup, même quand on fait un composteur qui est installé à tel endroit dans son jardin, et bien de déplacer son composteur à un moment donné, et si jamais notre sol il est relativement meuble en dessous, et bien de faire un semis de carottes là, ou de profiter de toutes les matières qui sont infiltrées dans le sol, et parce que ça veut dire aussi quand on composte, il y a pas mal de gens qui compostent ou qui vont amener, évidemment nous là on est peut-être tous convaincus, mais il y a des gens qui amènent des choses aussi en déchetterie, qui vont délocaliser, mais par contre qui pour leur jardin ramènent plein de choses, des engrais liquides, du fumier, etc., alors qu'en fait on pourrait ben aller jusqu'au bout et dire ben moi aussi je composte là, c'est à la fois amener, et c'est pareil quand j'amène un compost dans mon jardin, il faut savoir en fait quand est-ce qu'on l'amène. Et si on amène un compost qui est hyper dégradé et qui a plus de vie à l'intérieur, il va avoir un côté structurant pour le jardin, en fait ameublir le sol, etc., mais il y aura plus d'être vivant à l'intérieur, donc ça vaut le coup de l'amener encore quand il est bien dégradé mais qu'il y a encore dedans ben des cloportes, des colamboles, des vers de terre, des millepattes. Ça veut dire qu'en fait, il y a encore à manger. Ça veut dire qu'en fait, quand on va l'amener dans nos parterres de fleurs ou dans notre jardin, eh bien, il va à la fois être structurant et il va avoir un côté un peu ben, nourrissant, vitamine pour le jardin.
Je vais juste partager. Moi, je me pose pas beaucoup de questions. Il y a des années que je composte. Mais quand je vous entendais, du coup, je me dis, moi, j'ai deux compostiers. Je me pose aucune question. Je mets les bananes, les oranges, tout, les fonds d'assiette, tout. Je fais engueuler des fois par mon mari parce que des fois il y a des rats et des trucs comme ça, mais ça fait rien, je le mets quand même. Et je m'écoute pas. Et donc, par contre, moi, je vide, donc, j'en remplis un. Et au bout d'un an, ben, je change de compostier. Et le reste, je le mets dans le jardin. Mais du coup, c'est sec. C'est assez sec. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que je le fasse plus tôt? Du coup, moi, je boulègue pas. Parce que j'ai un compostier haut et je trouve ça, pourtant je suis une travailleuse, mais au début ça va, mais j'arrive pas à aller au fond, quoi. Voilà, je l'ouvre dès qu'il pleut, je l'ouvre. Donc il est assez, mais voilà. Est-ce qu'il faut que je le vide peut-être plus souvent ou...
Soit le vider plus souvent, vous venez de le dire. C'est un travail fastidieux. Par contre, le simple fait d'avoir deux bacs, C'est bien. Ça rejoint ce que Antoine disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les techniques qu'on met en place pour du gros volume et du compostage partagé en ville, le coût du multibac, c'est intéressant aussi quand on est sur un grand terrain à échelle individuelle, mais de déclarer qu'il y a un bac d'apport et ce sera toujours dans celui-là que je vais apporter, et pas j'ai un bac d'apport et une fois qu'il est plein, je le laisse tranquille et je commence à remplir l'autre. Plutôt garder toujours le même en bac d'apport et quand il est plein, là je l'ouvre et à coup de croc, je tire tout simplement. Et je le bascule dans le bac d'à côté. Ça permet de remélanger. En général, les matières humides, elles sont en bas et relativement tassées. Et il reste les morceaux plus grossiers au-dessus et qui, eux, se sont desséchés et vont mettre très longtemps à se dégrader, effectivement. Le simple fait de faire ça, de le basculer, ça permet d'abord de tout remélanger, de se rendre compte si et s'il est vraiment trop sec, soit on peut l'utiliser directement en paillage et il va se réhumidifier avec les pluies et au contact direct du sol. Soit, si on considère qu'il est pas beau pour utiliser en paillage ou le laisser se dégrader sur place, remplir une bassine ou une poubelle avec ce matériau trop sec, le remplir d'eau et le laisser se réhumidifier. Mais il faut faire comme une éponge. Souvent, on entend, ah, mon compost, il est trop sec, je vais l'arroser. Mais si vous arrosez avec un arrosoir, vous pouvez passer, c'est comme sur une éponge desséchée. Avant qu'elle arrive à prendre l'eau qui ruisselle autour, vous allez passer 100 litres d'eau pour choper un litre d'eau dans vos matières. Donc, il vaut mieux réhumidifier comme une éponge vos matières trop sèches et soit les rebalancer au composteur, soit les utiliser une fois qu'elles ont bien absorbé de la flotte, toujours pareil, en paillage ou en nourriture du sol. Mais gardez cette idée de la technique de basculer un composteur sur l'autre, donc vous en gardez un en bac d'apport et l'autre, il vous sert de mûrisseur. Le simple fait de basculer l'un dans l'autre, à chaque fois, ça va rééquilibrer, d'abord remélanger les matières fines et les matières épaisses, et ça va rééquilibrer un peu l'humidité, et ça vous permet de le voir et de décider de ce que vous en faites. Ne serait-ce que ça.
Après, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des composteurs avec des façades amovibles devant, pour qu'on puisse sortir la matière plus facilement. Et donc, une autre solution, quand on en a qu'un, c'est aussi d'avoir quand même une bâche, de sortir la matière, de la brasser et de la remettre dans le même composteur. Il existe aussi des outils maintenant, enfin nous on est en train de les tester en résidence collective, notamment le brass compost, peut-être que certains connaissent. C'est un peu comme un ressort qui ressemble à un tire-bouchon. Et en fait, c'est un outil qui permet d'aller brasser, d'aller faire du carottage un peu, d'aller brasser sur une surface de, je sais pas, 40-60 centimètres. Et de soulever un petit peu la matière, donc ça l'aère. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça évite d'avoir à sortir la matière. Par contre, si on veut qu'il ait une efficacité, on a remarqué qu'il faut l'utiliser au moins une fois par semaine, donc c'est un peu contraignant, et sur l'ensemble de la surface du composteur, pour qu'il y ait bien une homogénéisation de la matière à l'intérieur. Mais ça reste aussi un outil qui peut permettre de faciliter l'aération qu'on a besoin, sans avoir à aller chercher toute la matière au fond. Donc voilà des solutions possibles. Mais sinon, effectivement, un an, c'est beaucoup, puisque on sait qu'on a un compost mûr à peu près entre 6 et 9 mois. Ça dépend du rythme d'apport, mais c'est quand même la durée moyenne.
Alors, dès qu'on parle de matière organique et de réduire ses déchets, alors évidemment, c'est moins facile en appartement, mais il y a aussi les poules. On peut avoir des poules. Et puis aussi, quand on parle de compostage... on peut aussi employer des mots différents. Déjà, on peut amener carrément de la matière organique pour faire des paillages directement sur le sol. Et on peut faire aussi du compostage de surface. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on va venir étendre nos épluchures ou nos restes de repas, etc., carrément sur le sol. On peut y rajouter dedans de la paille, du broyat, des copeaux. Et en fait, ça va être, on va le rentrer dans la rotation de nos cultures. Et donc, au lieu de, et moi, j'ai souvent échangé avec des maraîchers bio qui disent, ben nous, tout notre reste de préparation de marché, de panier, etc., on fait un tas, mais le compost, on a autre chose à faire. Par contre, on achète des matières extérieures pour pouvoir amender nos cultures. Et certains, je pense que à la fois sur son balcon ou dans un quartier en pied d'immeuble ou dans son jardin, il faut expérimenter. Et à des moments, en fait, il ne faut pas hésiter à essayer de dire « je viens épandre des champs de surface sur mon jardin ». Par contre, le gros problème ou le truc qu'on a à dépasser, en fait, c'est plutôt un truc culturel. Il y a des gens qui disent « voilà, d'avoir des épluchures dans mon jardin, etc., c'est pas super esthétique ». Mais après, chacun a à travailler avec sa relation au vivant et aux matières.
Mmh. je fais un petit point. Donc on est sur le stand du CEP, la monnaie locale, a priori Tarn-Nord, mais justement on est avec une utilisatrice et qui va nous dire un petit peu, ben, alors est-ce que vous pouvez vous en présenter ?
Oui, bonjour, je suis Sylvie Mas, l'organisatrice du Forum Bien-être, donc, qui est issue de l'association Protection de la Santé du Cadre de Vie, donc à Groyer, dans le Tarn Sud. Et nous avons été les premiers à adhérer au niveau du CEP, donc cette année, donc c'est tout nouveau. Et pour l'année prochaine, au niveau du Forum, qui a lieu du 22 au 24 mars, on pourra venir payer sur le Forum avec le CEP.
24 mars 2019, hein, on parle.
2019, oui.
Et du coup, vous, en tant qu'utilisatrice, ça fait combien de temps le CEP ?
Eh ben, depuis le départ, en tant qu'utilisatrice, c'est pas facile quand on est sur le Tarn Sud parce qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant, ouais. Donc il faut faire des déplacements. Dans le cadre de mon travail, j'arrive à les faire, ces déplacements, donc je peux aller me servir. Mais c'est vrai que je tanne un petit peu les Groyer-Toi du Sud de vraiment adhérer. Mais pour adhérer, il faudrait aussi avoir des personnes un petit peu à la retraite qui sachent compter et qui ait la possibilité de tenir une gestion, parce que c'est pas toujours au même bénévole à s'occuper de tout.
Ouais. Oui, parce qu'on rappelle, il n'y a pas de salariés dans l'association Le CEP, c'est que des bénévoles qui animent localement des points. Et juste, vous, quand vous faites vos courses, par exemple, à qui vous pouvez acheter un CEP ?
Alors, pour l'instant, essentiellement, moi qui suis Groyer-Toise, donc il y a un magasin biologique sur Albi, ouais. Mais après, je vais chez des viticulteurs qui sont avec Le CEP.
Qu'est-ce qui manquerait comme achat que vous pourriez faire en CEP que vous n'avez pas encore dans la boucle du CEP pour l'instant ?
Tous les autres, il y en a plein d'autres. Voilà. Mais moi je pense qu'on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas au démarrage. Si on ne parle pas avec ceux qui le pratiquent, on ne peut pas connaître que ce... En fait, c'est tellement simple. Moi, ce sont mes amis à Villeneuve-sur-Lot qui ont instauré l'abeille. Hein, donc, j'en connais un long morceau depuis...
C'est la première, je crois, c'est la première monnaie locale en France.
C'est la première et la plus prolifère. Hein, parce que c'est vraiment génial, hein, tout ce qu'il y avait. Cette année, lors du forum, j'ai fait parler justement une adhérente par rapport à l'abeille et qui explique depuis des années comment ça fonctionne sur le secteur et l'économie locale qui a augmenté, ouais. Et elle disait, si ma mémoire est bonne, que c'était plus de 47%. C'est énorme,
l'augmentation de oui. L'activité économique locale,
voilà. Et ça arrive jusqu'à Agen.
Ah oui.
Aux portes d'Agen, ils sont maintenant. Mmh. Donc, c'est vraiment super. Et c'est ce qu'il faudrait par rapport au Tarné, parce que ben, y a un savoir-faire, un savoir-être. Il n'y a pas de raison qu'on se retrouve pas. Et pour moi, ça serait vraiment idéal. Cette année, ben, je suis en train de parler avec des exposants, des futurs exposants pour le forum de l'année prochaine. Et j'ai vu qu'ils étaient au niveau du CEP, donc je vais encore leur donner leur priorité. Parce que pour moi, c'est vraiment les mettre et tambouriner sur le Sud en disant, mais réveillez-vous. Quoi. Mmh. Voilà. Je le suis en tant que thérapeute aussi.
Oui.
Hein, ouais, vous voyez.
On peut
fais des
venir
petits
chez vous payer un CEP,
voilà.
Pour des soins.
Voilà.
D'accord. Et on a une autre bénévole toujours sur le stand du CEP. Est-ce que tu peux te présenter ?
Moi, je m'appelle Catherine Tiroin et je suis trésorière, je m'occupe du fonds de garantie.
C'est important, le fonds de garantie.
C'est important, c'est-à-dire que les gens qui changent les euros contre des CEP, on garde les euros. Et par contre, légalement, on a le droit aussi d'en prêter une toute petite partie. On fait des microcrédits pour des prestataires qui auraient besoin d'une petite somme pour les dépanner, pour acheter du matériel ou quoi. Voilà. Donc on permet de dédoubler, en quelque sorte, l'argent.
Oui, parce qu'il y a la CEP qui circule,
voilà.
Et l'argent de l'autre, il ne dort pas forcément.
Qui est gardé et une partie qu'on peut éventuellement prêter. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça peut être comme prêt, jusqu'à quelle somme et pour quelle...
Ce n'est pas une grosse somme, hein, c'est des microcrédits, ça peut aller jusqu'à 5000 euros par exemple.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal quand même, enfin, ce n'est pas des gros crédits. Par exemple, un prestataire qui aurait besoin, je ne sais pas moi, qui fait le jardinage, qui aurait besoin de racheter un petit matériel. Mmh. Voilà, donc on va tout ça étudier, hein, pour qu'il puisse rembourser, bien sûr.
Oui, j'imagine. Que du coup, voilà. C'est le CA qui se réunit pour être d'accord ou pas.
Il faut, voilà, c'est ça. C'est collégial, hein. Il n'y a pas de président, c'est tout le monde décide ensemble.
On peut rappeler, voilà. Donc le principe, c'est 1 euro, 1 CEP.
Voilà, oui, toutes les monnaies locales, c'est comme ça. Voilà,
il y a des billets de 1, 2,
5, 10 et 20.
Et on peut rendre la monnaie à 1 euro.
Alors, quand on a des centimes, on doit rajouter en euros. Hein. Si c'est 5,40 euros, on donne 5 CEP, 40 centimes d'euros. Mmh. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire
contre, normalement, le prestataire ne doit pas rendre, si on donne 6 CEP, théoriquement, il n'a pas le droit de nous rendre 60 centimes d'euros. C'est à nous de faire la pointe. Mmh. Voilà.
Et alors du coup, le principe c'est que la monnaie circule parmi les adhérents, prestataires et consommateurs.
Voilà.
Et alors nous, on a vu par exemple sur Albi que certaines prestataires, ça devient un peu une voie de garage,
le dernier. Alors, les prestataires ont le droit, contre 1%, c'est-à-dire minime, hein, parce qu'il y a des monnaies locales qui prennent jusqu'à 5%, on peut lui faire lui redonner des euros et il nous rend les CEP. D'accord. Mais évidemment, nous, on préfère que ça tourne. Mais on est obligé, comme vous dites, pour ceux qui arrivent en bout de chaîne.
Ouais.
Donc, ils arrivent à en utiliser un peu, mais pas tout.
Hein, et il faut du coup rassurer un petit peu les gens, parce que les gens ont l'impression qu'ils font une double comptabilité, mais en fait, vu qu'un euro égale un CEP...
Oui, exactement, il n'y a pas de comptabilité double. Il faut séparer, mais de toute façon, ils ne sont pas du tout comme des euros, on ne peut pas mélanger. Mmh. Voilà, donc c'est facile. Hein,
Et il faut préciser que par rapport à d'autres monnaies, notamment le Copec qui a failli se lancer sur le Tarn, enfin, au-delà du Tarn même, qui était une monnaie virtuelle, vous avez fait le choix du billet.
Ça s'appelle des coupons normalement, ce n'est pas des billets. Pour l'égolement, c'est des coupons. Oui, on a choisi que de manuel, tangible. Voilà.
Donc du coup, ça nécessite effectivement quand même que les
gens aient des euros, que les gens mais ils peuvent donner un chèque hein, quand même, hein, puisque moi je le pose à la banque après.
D'accord.
Voilà. Et on a le fonds de garantie, on a une partie, on n'a pas pu se mettre à la neuf parce qu'ils ont trop d'argent prêté, donc ils ne veulent plus faire des comptes. Par contre, on a prêté à Terre de Liens. Terre de Liens qui aide des jeunes agriculteurs à récupérer des terres quand c'est en bio, en biodynamie.
Là, c'est du foncier et là, effectivement, il faut des euros quoi, pour l'instant.
Mais eux, ils servent que pour leur l'argent dont ils ont besoin pour la trésorerie. C'est pas pour acheter des terrains. Hein. Mm-hmm. Voilà.
On peut faire le bilan après un an et quelques de CEP. Les adhérents.
Alors, on a à peu près 82 adhérents et à peu près 120 donc adhérents prestataires et 120 particuliers, tout en sachant que les prestataires sont également utilisés aussi.
Ouais.
Donc, ça fait un peu plus de 200 personnes. Voilà, on voudrait que ça s'élargisse, évidemment.
Est-ce qu'il y a des critères? Parce que, alors, le but, c'est quand même de favoriser une économie vertueuse.
Vertueuse et plutôt biologique, si possible. Et et le local. Donc déjà, en elle-même, elle est intéressante parce que ça relocalise le commerce.
Et si les gens, si par exemple il y a des petits commerçants qui ne vendent pas que du bio, est-ce qu'ils peuvent venir voir quand même et on étudie leur dossier, c'est ça?
Oui. Bon, on ne veut pas de supermarché, hein. Oui. On est d'accord qu'on reste quand
mais
même...
Des épiceries bio, mais qui n'ont pas que du bio.
Ah oui, mais les épiceries bio, elles ont forcément des choses qui arrivent d'étrangers.
Ouais.
Mais elles sont bio. Déjà, c'est déjà le critère de base. Mais effectivement, les boutiques... Elles ne peuvent pas avoir que du local, hein, c'est pas
alors,
possible.
Nous, on a vu aussi un des producteurs de la MAP d'Albi qui prend le CEP. Et alors lui, pour la MAP, c'est plus compliqué parce que c'est des chèques d'avance, donc ça passe encore par l'euro.
Oui.
Mais après, il le prend, lui, quand il fait des ventes à domicile. Après, il dit que lui, c'est compliqué pour... une de ses plus grosses dépenses, c'est l'essence. Du coup, c'est compliqué.
Oui, c'est sûr. Oui. Même pour payer en électricité, etc. C'est pour ça que les prestataires qui sont en bout de chaîne, on est obligé de pouvoir redonner des euros en échange. Hein. C'est effectivement.
En tout cas, c'est l'occasion de voir un peu quelles sont nos dépenses locales ou pas locales et de faire le point un peu sur.
C'est toute la vie courante, quoi. La vie courante d'alimentation surtout et un peu d'artisanat. Mmh. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CEP pour le futur?
Du monde.
Que des gens comprennent que c'est très important de relocaliser l'économie. C'est le futur, hein, parce que la mondialisation, ça pose quand même des gros problèmes. Hein. Mmh. Donc,
Oui, donc c'est une façon tangible et concrète de lutter contre la mondialisation.
Oui, mais en même temps, de ne pas se fermer.
Oui.
C'est ça que souvent les personnes qui ne passent pas à l'acte et qui disent mais ils sont de notre temps et ce sont que des écolos de base, etc. C'est péjoratif ça. Et en fait, non, c'est s'ouvrir au monde, mais d'une autre manière, en vivant bien chez nous. Comment peut-on s'occuper des autres quand on est mal chez nous? Et ça, on le voit de tout temps aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Tout ce qui est local, notamment tout ce qui peut être d'ordre alimentaire, ça ne devrait pas dépasser les 50 km à la ronde. Et après, ce qu'on ne peut pas produire chez nous, dont on peut avoir besoin, les bananes, le café, on va pouvoir l'acheter. Et pourquoi pas le faire aussi avec une monnaie locale du secteur, etc. Ça serait génial. Et là, on aurait vraiment une possibilité de vivre de cette manière-là.
Ça serait des échanges entre monnaie locale et diversifiée, mais qu'il y aurait un taux de change qui pourrait...
C'est un peu le but qu'on voudrait, c'est arriver à pouvoir changer de région et puis pouvoir échanger les monnaies locales les unes avec les autres. Ça vient viendra. C'est dans les tuyaux, on dit.
Voilà. Mais pas que ça parte pour aller faire spéculer, faire du business avec et en fait faire mourir le local où tous ceux qui bossent vraiment beaucoup ben, ont 3 francs 6 sous, entre guillemets, et les autres s'en mettent plein les poches. C'est pas ça la vie.
Merci à toutes les deux.
Voilà. Merci.
Merci à Mathieu de l'association Mesclavie qu'on peut retrouver sur mesclavie.com. Merci au réseau Compost Citoyen qu'on peut retrouver sur réseaucomposttoutattaché.org. Merci au CEP, la monnaie locale, qu'on peut retrouver sur internet monnaielocale-toutattaché-cep.org. C'était le 3e épisode de notre balade sur la foire Biocibel édition 2018 organisée à Groyer au parc de la Bousquetariée par l'association Nature et Progrès Tarn, association que vous pouvez retrouver sur internet sur le site np.org. Tarn, toutattaché.org. Adicias.